journal, présenté par Mathieu Laurent.
Bonjour à tous. Attentat dans le sud-ouest de l'Iran, une fusillade meurtrière d'une parade militaire consacrée à la guerre Iran-Irak des années 80, précision dans un instant d'Isabelle Labéry. Une procédure de destitution à l'encontre de Donald Trump envisagée au printemps 2017, ce sont là les dernières révélations de New York Times, correspondance de Loïc Loury. L'ancien président français François Hollande déclare à Mediapart qu'il n'a pas eu son mot à dire sur l'entreprise indienne qui a remporté le contrat des Rafales. Le gouvernement ne la rendra maudit et violemment attaqué par l'opposition. Explication de Sébastien Farcy. Également au sommaire de cette édition, la colère des maires ruraux qui tiennent leur congrès annuel dans les Hautes-Alpes. Et puis la bulle éco, Marie Viennot nous parle fraude fiscale. Des hommes dissimulés derrière une estrade ouvrent le feu en plein défilé militaire dans le sud-ouest de l'Iran. 24 morts et des dizaines de blessés, 53 selon un dernier bilan. La cérémonie était dédiée à la commémoration du début de la guerre contre l'Irak 1980-1988. Le ministre iranien des Affaires étrangères a aussitôt déclaré que cette attaque avait été commise par un régime étranger. Bonjour Isabelle Labéry.
Bonjour.
Isabelle, de quelles informations disposons-nous quant au déroulement de cette attaque ?
Tout se passe sur cette grande avenue où la foule, en cette matinée ensoleillée, est venue assister à la parade militaire. La cérémonie est filmée en direct par les télévisions quand un petit groupe d'assaillants, 4 individus tout au plus, tire sur la foule et les soldats qui défilent. La fusillade dure plusieurs minutes. Parmi les morts, des militaires et des civils, dont des enfants, le président Hassan Rouhani, qui assiste au défilé, quitte rapidement la tribune. Quelques heures plus tard, le porte-parole des gardiens de la Révolution désigne le coupable, un groupe séparatiste arabe qui a déjà mené plusieurs attaques ces dernières années dans la région. Cette province est en effet majoritairement peuplée d'Arabes. Elle a été l'une des régions les plus touchées par la guerre Iran-Irak. À l'époque, la population avait dans sa grande majorité a apporté son soutien aux Perses de la République islamique, mais depuis plusieurs années, ses habitants se sentent abandonnés par le pouvoir central. Il y a eu des mouvements de contestation civile contre Téhéran en raison de la crise économique, comme ailleurs dans le pays, mais aussi en raison de la pollution liée aux raffineries de pétrole. Et c'est sur ce terreau que le mouvement séparatiste a prospéré. Et selon la rhétorique habituelle du régime, il est soutenu par l'étranger, en l'occurrence le grand ennemi régional, l'Arabie Saoudite, lui-même allié de Washington. Et je cite Mohammad Javad Zarif, le ministre des Affaires étrangères. « L'Iran, dit-il, considère que les parrains régionaux du terrorisme et leurs maîtres américains sont responsables de telles attaques. »
Alors justement, Isabelle, que lire entre les lignes ? Bon, on peut peut-être ajouter quelques détails. Vous avez donné déjà pas mal d'éléments s'agissant de ces déclarations toutes officielles. Mais enfin, on voit bien qui le régime iranien désigne.
Oui, et puis c'est surtout une crispation de plus dans un climat de tension déjà très très forte entre l'Iran et les États-Unis. Vous savez que Donald Trump devrait annoncer début novembre une nouvelle vague de sanctions contre la République islamique après son retrait de l'accord sur le nucléaire. Et avant même cette attaque ce matin, le président Hassan Rouhani s'était montré menaçant envers les États-Unis, expliquant que son pays ne réduirait jamais ses capacités défensives, mais qu'au contraire, il les augmenterait jour après jour, référence directe aux missiles balistiques que développe l'Iran et qui inquiète les Occidentaux. Les deux dirigeants auront peut-être l'occasion d'en reparler à New York la semaine prochaine à l'Assemblée générale des Nations unies.
Merci, merci beaucoup de toutes ces précisions. Isabelle Labéry, le vice-premier ministre chinois annule son voyage à Washington prévu la semaine prochaine. Pékin n'enverra pas la délégation d'experts chargée de préparer en amont de cette visite de nouvelles négociations commerciales. Lundi, la Chine tirera d'ailleurs une nouvelle salve de droits de douane sur 51 milliards d'euros d'importations américaines. Ce sont là les conséquences des dernières menaces en date de Donald Trump proférées hier soir à l'encontre de Pékin. Le président américain était en meeting au Texas en vue des midterms. Donald Trump, qui à cette tribune réagit, et dans la finesse comme il en a l'habitude, aux dernières révélations du New York Times. Il y a comme une puanteur au ministère de la Justice, a lancé le président américain. Rod Rosenstein, attorney général adjoint, est chargé de superviser l'enquête sur l'ingérence russe dans l'élection présidentielle de 2016, Rod Rosenstein aurait en effet envisagé de lancer une procédure de destitution à l'encontre de Donald Trump. Dans quelles circonstances ? Écoutez les précisions de New York de Loïc Loury.
Washington, printemps 2017. James Comey, le patron du FBI, est limogé par Donald Trump. L'ambiance est explosive à la Maison Blanche sur fond d'enquête russe. Rod Rosenstein, numéro 2 de la justice, est alors en poste depuis quelques semaines. Commencent alors des entretiens pour remplacer Comey. Et justement, c'est en voyant le président mener ces discussions importantes que Rosenstein bascule, selon le New York Times, face au comportement erratique du milliardaire. Le journal décrit un homme troublé qui propose alors d'enregistrer le président à son insu. Il aurait aussi tenté de convaincre d'autres membres du cabinet de lancer contre lui une procédure de mise à l'écart, le fameux 25e amendement. Aucune de ces propositions n'a finalement abouti et le Times admet ne pas savoir à quel point Rosenstein était sérieux. Mais l'affaire n'en est pas moins lourde puisqu'elle donne à ses adversaires une raison désormais de le pousser vers la sortie, lui qui chapeaute l'enquête russe du procureur Mueller. Enfin, ce serait aussi la première fois qu'un membre du cabinet dont on connaît le nom évoque ouvertement ce 25e amendement à propos du président américain.
C'est une petite phrase qui donne de l'eau au moulin de l'opposition indienne. Dans un article mis en ligne hier par le site d'information Mediapart, l'ex-président français François Hollande affirme que c'est le premier ministre indien Narendra Modi qui a personnellement négocié et modifié le contrat Rafale à huis clos. Depuis des mois, l'opposition demande à Modi d'expliquer pourquoi il est tombé ce contrat entre les mains de l'entreprise Reliance plutôt que dans l'escarcelle de la société aéronautique publique. Il ne pouvait pas faire mieux, François Hollande. Pour nourrir une lourde polémique, le parti du Congrès crie à la trahison. Sébastien Farcy, à New Delhi.
Le Premier ministre a secrètement négocié le contrat des Rafales. Il a trahi les Indiens et déshonoré le sang de nos soldats. Rahul Gandhi, le président du parti du Congrès dans l'opposition, a rebondi sur Twitter vendredi soir aux déclarations de François Hollande. Les propos de l'ancien président français sont en effet embarrassants. Jusqu'à présent, les gouvernements indiens et français affirmaient que c'était Dassault et uniquement lui qui avait choisi Reliance comme partenaire pour ses investissements obligatoires en Inde, dit de compensation en marge du contrat des Rafales. Mais selon François Hollande, c'est le gouvernement de Narendra Modi qui a fortement encourager cette alliance de Dassault avec cette société tenue par un proche du Premier ministre et qui n'avait jusqu'à présent aucune expérience dans l'aéronautique. Dassault a alors dû investir 100 millions d'euros dans la compagnie créée avec Reliance pour construire une usine qui produira des pièces d'avion Falcon et plus tard de Rafale. L'opposition indienne affirme maintenant que le Premier ministre a détourné de l'argent par cette manigance. Le gouvernement indien n'a pour l'instant pas répondu à toutes ces accusations.
Le Brexit ne peut se traduire par la déglingue, le détricotage de l'Union européenne, selon la ministre française des Affaires européennes. Nathalie Loiseau a réagi ce matin aux déclarations de la première ministre britannique, selon laquelle les négociations sont dans l'impasse et le rejet de ces propositions inacceptables. Theresa May, appuyée ce matin par le chef de la diplomatie, Jeremy Hunt, qui lance « Il faut que les dirigeants européens s'éloignent de l'abîme ». Fin de citation. Ce sont les maires ruraux français qui parlent. Ils se sentent abandonnés et veulent le faire savoir. Leur association tient son congrès annuel ce week-end à Saint-Léger-les-Mélèzes dans les Hautes-Alpes en présence de deux ministres, Elisabeth Borne, ministre des Transports, et Jacques Mézard, ministre de la Cohésion des Territoires, deux représentants de l'État à qui les maires comptent bien dire leur ras-le-bol. Pour le président de la MRF, Vanik Berberian, la situation n'a jamais été aussi critique.
Il y a un niveau de saturation et de mécontentement qui est important comme jamais. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est le transfert obligatoire de la compétence eau assainissement à l'intercommunalité. Ça peut sembler un peu technique comme sujet, mais derrière ça, il y a le constat que au plus haut niveau du pays, on ne tient pas compte de l'avis des élus de terrain. Et ça, sincèrement, c'est quelque chose qui devient insupportable. C'est de la méconnaissance, beaucoup, de l'ignorance, du mépris. Toutes les dernières lois qui ont été votées n'ont fait qu'aggraver ce déséquilibre. Quand on regarde ce qui a été fait en matière de mobilité pour les territoires ruraux, on a quoi ? On a la limitation de vitesse à 80 km/h, on a une augmentation des taxes sur les carburants, l'augmentation du diesel. On n'a rien, si vous voulez. On n'a que des mauvaises nouvelles. Si on aggrave cette fracture, elle va se traduire très concrètement dans les urnes. Et ce qui se passe actuellement en Europe ne peut que nous inquiéter. Les extrêmes, et pour être précis, le Front National qui prend beaucoup d'ampleur, c'est le résultat d'un vote de défiance, c'est-à-dire que les territoires ruraux, les habitants de ces territoires ruraux se sentent négligés, méprisés. Quand vous avez des difficultés pour vous faire soigner, quand vous pouvez pas vous déplacer, etc., tout ça, ça donne des conditions donc de vie qui sont compliquées et les gens l'expriment au moment du vote, c'est légitime. Il y a un risque démocratique, si vous voulez, derrière tout ça, et il y a un ras-le-bol général.
Des propos recueillis par Margot Steve. Une quinzaine d'opposants au projet de contournement autoroutier de Strasbourg ont réinvesti les lieux hier en fin de soirée après le départ des gardes mobiles, des lieux évacués le 10 septembre dernier. Ils se sont réinstallés sur l'ancienne zone à défendre de Kolbsheim. Des associations de défense de l'environnement ont déposé plusieurs recours. Le tribunal doit se prononcer mardi.
La bulle économique, Marie Viennot.
Marie Viennot, vous nous entretenez de fraude fiscale et cela vaut bien un masterclass.
Bien, mesdames, messieurs, mesdames les parlementaires.
Nous sommes à Bercy. Le ministre du Budget s'exprime en clôture d'une conférence au nom prometteur « Fraude fiscale, la fin des tabous ». L'un des tabous, c'est combien ? Combien le budget de l'État perd-il de recettes du fait de la fraude ? Plus qu'un tabou, l'évaluation est un défi. Mesurer ce qui se cache, c'est une gageure. Faire le tri entre ce qui se cache à dessein ou par erreur, encore plus. Les pertes fiscales ne sont pas toujours liées à la fraude et dans ce cas, on parle de manque à gagner fiscal. La nuance est capitale, tout comme la méthode qui sera choisie pour mesurer le chiffre magique que l'opinion réclame.
Il y a deux grandes familles de méthodes, les méthodes indirectes et les méthodes directes.
Brice Lepetit, chef de bureau des études statistiques fiscales à Bercy.
Je ne vais pas vous faire une masterclass d'évaluation, ça n'aurait pas de sens et tout le monde dormira assez vite.
Comme vous êtes bien réveillé, la Bulle Éco vous propose au contraire de rentrer dans le détail. La méthode indirecte, on l'appelle aussi la méthode top-down, parce qu'elle part d'en haut. On prend des données de la comptabilité nationale, on y applique un taux estimé de rendement fiscal et on compare avec les recettes. La Commission européenne utilise cette méthode pour mesurer la taxe sur la valeur ajoutée qui échappe aux pays membres. La bonne nouvelle, c'est que dernièrement, les sources accessibles publiquement par les chercheurs et les ONG se sont beaucoup améliorées et grâce aux nouvelles technologies, grâce aux nouvelles obligations de transparence imposées aux banques qui opèrent dans les paradis fiscaux, ces méthodes top-down se généralisent. Le problème, c'est qu'elles obligent à formuler des hypothèses qui rendent parfois les résultats fragiles. La deuxième méthode, dite directe ou bottom-up, de bas en haut, part du réel, c'est-à-dire des contrôles fiscaux, et elle extrapole la proportion de redressement constaté à l'ensemble. C'est la méthode utilisée par le syndicat solidaire Finances Publiques qui chiffre, lui, entre 80 et 100 milliards d'euros par an, la perte fiscale liée à la fraude et l'évasion en France. Le problème, c'est que dans ce chiffre, on retrouve aussi bien le contribuable qui a fait une erreur que celui qui a sciemment fraudé, le contribuable redressé à juste titre par le fisc et celui qui sera innocenté par la suite. Portée au nu sans discernement par les uns, discréditée sans argument par d'autres, l'évaluation de ce syndicat de Bercy a le mérite d'exister car de chiffres officiels, il n'y a pas à ce jour en France, ce qui va oui, enfin changer. Gérald Darmanin l'a annoncé lors de cette conférence à Bercy. Le chiffrage est en marche.
Ces travaux porteront non seulement sur la fraude, mais le manque à gagner fiscal et social au sens plus large. Je prends l'engagement donc qu'à la même date l'an prochain, nous serons en mesure d'annoncer ce chiffre qui sera le fruit de ces travaux.
Un an, ce sera court, mais la France ne part pas de zéro. Pérou, Argentine, Australie, Danemark, Suède, États-Unis, Italie, plus de 20 pays dans le monde produisent déjà des chiffres officiels de ce qu'on appelle le tax gap, littéralement le fossé fiscal, fossé entre ce qui devrait être collecté et ce qu'il est. Le Royaume-Uni donne l'exemple sur ce sujet. Chaque année depuis 10 ans est publié un montant global du fossé fiscal et mieux encore, sa déclinaison par agents économiques, type de taxe et comportement. Ce qui permet d'aller au-delà de bien des clichés. Sur 33 milliards de livres de manque à gagner fiscal au Royaume-Uni par an, l'évasion ne compte que pour 5 milliards, alors que 10 milliards, ce sont des négligences ou des erreurs d'interprétation juridique. Sur ces 33 milliards, 13 milliards sont dus par des petites entreprises et seulement 3 milliards et demi par des particuliers. Voilà qui change le portrait robot que l'on se fait parfois du fraudeur fiscal, riche, particulier et tricheur. Espérons qu'en France, il n'y aura pas qu'un seul chiffre mais aussi plusieurs, et que leur révélation s'accompagnera d'une masterclass évaluation plutôt que d'une séquence chiffres à sensation.
Merci à vous, Marie Vienneau, pour cette bulle éco à retrouver sur le site franceculture.fr. La météo de ce samedi après-midi avec une nouvelle perturbation sur la Bretagne, les Hauts-de-France et la Normandie. De rares précipitations sur les Alpes. Température maximale comprise entre 17 et 30 degrés. Cette édition a été préparée avec Emmanuel Faucillon, à la technique Bruno Gagnère-Fontanille.